frère, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ces programmes que vous propose Radio Okapi. Mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à parole aux auditeurs. Le forum sur le numérique tenu la semaine dernière en RDC a recommandé pour qu'il soit fait du numérique les leviers d'intégration des croissances économiques, des bonnes gouvernances et des progrès sociaux. Selon certains experts participant à ces assises, le plan national du numérique adopté par le forum envisage aussi de mettre en place d'ici à 2020 des visas électroniques d'accès. C'est RDC. Quels sont, selon vous, les préalables pour qu'il y ait la promotion et l'accès au numérique en RDC? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 et vous avez également la possibilité d'interagir avec les autres compatriotes sur cette question sur notre page Facebook. Jean-Noël Mokondo assure la mise en onde de cette émission réalisée par Nico Okalambay sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Ce programme est coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Lwabung, Anji. Bienvenue à tous.
Leur quotidien, préoccupations et ambitions, c'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Notre invité est déjà dans ce studio, Maître Kojo Ndukuma, qui est avec nous. Maître, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes docteur en droit de l'économie numérique de la Sorbonne et en même temps, vous avez assumé les fonctions de DIRCABA au PETENTIC, hein, le ministère de PETENTIC à l'époque. Et aujourd'hui, vous êtes l'un des rédacteurs de nouveaux plans numériques. Alors, d'entrée des jeux, comme qui dirait, nous fait des soulagements. Enfin, la RDC vient de se doter d'un plan national du numérique. Alors, quels sont les préalables pour que finalement, qu'il y ait vraiment la promotion et l'accès au numérique pour l'ensemble de la RDC?
Au départ, merci, nous avons fait une approche qui permet pour la première fois dans le pays de pouvoir faire un cadrage stratégique du numérique selon la vision du chef de l'État, de faire du numérique le levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Alors, le préalable, déjà, c'est au niveau conceptuel. Tout le monde parle du numérique, mais le numérique, c'est quoi? Il a existé le secteur des PTT, d'abord, poste, téléphone, télécommunication, ensuite le poste de ministre
des communications.
De communication et technologie de l'information et de la communication. Mais maintenant, nous nous mettons dans le numérique ce qui suit. Nous mettons la télécommunication de la donnée, c'est ce qu'on appelle la téléinformatique. Nous mettons dedans la télécommunication du son, soit c'est la téléphonie, soit la radiophonie. Nous mettons également la télécommunication de l'image, c'est l'audiovisuel. Mais c'est ce qui concerne les télécommunications au pluriel. Ensuite, il y a l'informatique dedans, qui est toute la science et l'art du traitement automatisé de l'information. Et puis, nous avons les technologies de l'information et de la communication qui permettent une démocratie en ligne. Ça veut dire que vous avez le web interactif, vous avez tout ce qui est réseaux sociaux. Et enfin, dans le numérique, nous mettons l'Internet. Mais l'Internet, c'est plusieurs générations. L'Internet, c'est maintenant en train de venir, c'est l'Internet des objets. Ça veut dire l'Internet des choses, l'Internet des objets connectés, et puis l'Internet qui va vraiment révolutionner tout ce qui est l'intelligence artificielle.
Mais les soucis dans tout ça, c'est avoir accès au numérique, avoir accès à la technologie, comme vous venez de les citer, la téléphonie, la radiophonie, l'image, des qualités. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, pas que nous soyons déjà engagés dans cette dynamique de pouvoir aller vers le numérique.
Oui, en termes de préalable par rapport à cette question, vous avez la diffusion technologique. La façon dont les technologies normales de la communication pénètrent dans le pays, c'est l'effet des opérateurs économiques qui font une offre de téléphonie et d'internet mobile. Et puis vous avez des commerçants qui vont à Dubaï, qui nous amènent des terminaux, soit dans leur poche, dans leur sac. Et il n'y a pas comme ça une fiscalité, un plan qui permet de servir de levier contre la fracture numérique. Donc c'est déjà ça le premier préalable, de diffusion technologique. En chiffres, sur plus de 80 millions de population, vous n'avez que 30 millions d'abonnés et 16 ou 17 millions d'abonnés qui utilisent l'Internet mobile et plus ou moins 6 millions qui utilisent la monnaie électronique. Ce n'est pas assez. Maintenant, vous avez en termes d'usage et de pratique, combien de personnes ne sont pas dans l'électronisme. L'électronisme, c'est un mot qui a été inventé par l'Académie française pour ne pas dire illettré, mais toutes les personnes qui peuvent être même lettrées, mais qui ne savent pas utiliser les technologies de l'information et de la communication. Et puis, vous avez tout le plan d'investissement. Quand on parle de la qualité des services, il faut avoir des infrastructures high-tech, des infrastructures aux normes, comme par exemple la fibre optique. Mmh. Nous avons une fibre optique qui est installée sur le versant, le front de mer ouest, le seul que nous avons d'ailleurs, à Mwanda, mais qui dessert quel type de service ou d'opérateur. Mmh. Et puis vous avez une ligne qui quitte Kinshasa, qui va vers Kasumbalesa, soit par les pylônes de la SNEL, soit souterrain avec la SCPT. Mais c'est quoi finalement la fonctionnalité de cette fibre optique. Donc, il y a également le volet infrastructure qui appelle des investissements. Donc, on a d'abord le cadrage intellectuel, sémantique. On a comment il faut booster la pénétration des technologies de l'information et de la communication. Et puis, nous avons également les infrastructures de grande valeur qu'il faut pouvoir mettre en place. Mais enfin, pour l'instant, il faut également un écosystème numérique local. Nous avons tellement de personnes qui sont formées chez EasyPa, qui sont formées chez ESMICOM ou à l'UPC maintenant dans les facultés des sciences informatiques, mais nous devons créer...
Et même à l'université de Kinshasa, la faculté de Polytechnique.
De Polytechnique, mais nous n'avons pas encore créé des start-up qui deviennent des champions économiques. Vous savez, Google ou même Facebook, ce sont des projets universitaires. Donc, ensuite, il y a Silicon Valley qui les a appuyés. Donc, le discours du chef de l'État qui porte
cette vision. Est-ce que ce n'est pas là un projet ambitieux ? Parce que, à croire votre intervention, parce que vous avez été l'un des rédacteurs, et finalement, ça demande quand même assez des moyens.
Effectivement, ça demande... C'est au-delà d'une ambition, c'est une guerre des intelligences. J'ai saisi le mot dans le discours du chef de l'État qui porte cette vision. Il dit, nous sommes aujourd'hui dans un monde de l'économie de la donnée. Nous sommes dans un monde qui est dans la révolution numérique. Cette révolution numérique peut se faire avec ou sans nous. Ou nous sommes simplement à la remorque et nous recevons comme ça toutes les plateformes aujourd'hui, YouTube ou iTunes, où tous nos musiciens vont déverser leurs œuvres culturelles, mais en fait ils les déversent sur des plateformes américaines qui se font énormément d'argent en leur rétribuant simplement un tout petit peu. Il s'est posé des questions de centres de données dans le pays. Certains ont dit qu'on n'a pas de centres de données. Donc ça veut dire que nous sommes dans une marche inexorable qui emporte le monde entier.
Quand vous parlez des centres de données, en quoi ce centre est différent de la question du serveur qui est soulevé aujourd'hui, les serveurs numériques de la RDC ou la question des Simbox qui se retrouveraient quelque part.
Bon, c'est l'architecture de notre réseau. Il faut déjà dire que Internet, on a pensé que ce n'était pas statocentré. Ça veut dire on pensait que Internet est tellement décentralisé qu'il n'y a pas un État qui le contrôle. Mais toutes les ressources racines qu'on appelle les adresses IP de l'Internet sont gérées par l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. C'est une ASBL américaine qui est non gouvernementales en principe. Mmh. Et elle donne des démembrements en Afrique par Afrinic. Et il y a un professeur hier qui est passé, prof Bopé, que je connais bien, pour dire que l'architecture du réseau Internet ne permet pas assez que tous les appels, que ce soit WhatsApp ou les transactions que nous faisions, passent par un seul serveur qui serait situé dans le pays de l'Est. Ça, c'est première raison. Qui serait situé au Rwanda, comme le monsieur l'avait dit. Et il a tout faux. Ça, on le dit. La deuxième chose, c'est dans l'architecture locale du réseau. Vous avez aujourd'hui le Kinix, je rends hommage à Microcom, mais qui a mis en place le point de change Internet. Donc, il y a des transactions Internet qui ne sortent même pas de la RDC, qui tournent simplement ici en boucle dans le pays. Et puis, nous avons un gateway physique, ça veut dire un point d'atterrage qui donne plutôt sur le câble transatlantique sous-marin qui va de Cape Town jusqu'à Londres. Ça veut dire, si jamais nous avons des sorties des transactions Internet à l'international, ça passe par ce gateway physique qui, si on m'avait dit que c'était Londres, mais bon, c'est pas en tout cas Kigali qui gère toutes ces questions. Donc c'est simple à pouvoir comprendre.
Mais ce n'est pas ici au Congo.
Oui, la question aujourd'hui...
Non, parce que ce n'est pas Kigali, mais c'est qui alors ?
Oui, la question c'est que nous sommes en train de bâtir notre souveraineté numérique. Nous avons aujourd'hui des infrastructures large bande, et puis maintenant nous devons mettre tout autour l'écosystème qui va avec. Nous devons avoir des centres de données. Ces centres de données nous permettront de pouvoir héberger nos données.
Donc le plan national recommande qu'on ait un centre de données.
Oui, des centres de données d'ailleurs certifiés, parce que bientôt nous allons avoir l'IA.
Qui sera géré par l'OCPT, la SPT.
La SCPT a déjà un centre de données, mais qui n'est pas encore opérationnel. Donc, dans le cadre du plan d'installation de la fibre optique, ils ont même...
Il faut un autre opérateur.
On n'est pas encore sur ces questions-là. Nous nous parlons de souveraineté numérique au niveau stratégique en disant il faut que nous contrôlons, nous ayons des infrastructures nationales de transmission, et puis il faut que nous ayons des infrastructures d'hébergement de données, et puis aussi il faut que nous rapatrions la gestion du point CD. Et sur la gestion du point CD, qui est les TLD.
Les points CD, il faut les rappeler, quand un ressortissant congolais est à l'étranger, quand il vous appelle, et ça paraît plus de 143, c'est toute cette question-là qui a été soulevée à l'époque. Donc c'est le domaine, même au niveau de l'Internet. Hein.
Oui, c'est au niveau de la téléphonie, c'est le... Country code plus 243, avec les SIN box qui travestissent les appels internationaux en appels locaux. Mais pour l'internet, c'est le point CD avec ce qu'on appelle le nom de domaine, le top level domain. Et le serveur primaire qui gère ce point CD, je le signale, a déjà été rapatrié ici en RDC.
Qui était en Afrique du Sud.
Et oui, et qui est sous gestion de la SCPT pour le moment. Donc nous sommes non pas en train de faire des épiphénomènes, on a une approche holistique qui permet aujourd'hui de bâtir la souveraineté numérique de la
RDC. Est-ce que l'État vétuste de l'outil de travail de la SCPT permettrait quand même une bonne gestion de ces serveurs?
Je dirais
parce qu'il y a autrefois, on a soulevé même la question de la révisitation de cet outil de travail.
Je dirais aujourd'hui que la SCPT a même fait un saut qualitatif, c'est ce qu'on appelle le leapfrog en anglais, un saut parce que nous n'avons pas connu le dégroupage de la boucle locale, ça veut dire booster le fil de cuivre que nous avions dans nos maisons pour avoir l'Internet. On est directement passé à la fibre optique. Ça, je vous le dis, c'est une grosse révolution. Donc, même en Europe, c'est la fibre optique, on est en train de la déployer maintenant dans les différentes maisons en FTTH. Donc là, aujourd'hui, la SCPT a un outil high-tech. C'est la dernière trouvaille avec la fibre optique. Mais simplement, il faut que les procédures internes, la mise en état du capital humain de la SCPT et aussi l'écosystème du marché puissent évoluer en fonction de ce saut qualitatif qui est effectué.
Voilà. Alors, on va écouter les auditeurs qui nous ont rejoints pour ce débat autour du plan numérique, le plan national numérique qui venait d'être adopté par les forums qui a été organisé la semaine dernière en RDC, où tous les experts en numérique se sont retrouvés. Mais la grande question aujourd'hui, est-ce que cela aura un impact sur la cybercriminalité à laquelle fait face aujourd'hui notre pays dans le système de l'Internet? 081-890-63-30 ou encore le 081-890-49-69.
identité culturelle. La culture congolaise, dans sa diversité et sa richesse, a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembu.
Le forum sur le numérique tenu la semaine dernière à RDC recommande qu'il soit fait du numérique les leviers d'intégration, de croissance économique, de bonne gouvernance et de progrès social. Alors quels sont selon vous les préalables pour la promotion et l'accès de qualité au numérique à RDC? Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Monsieur J.R., bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup pour la parole donnée. Je crois que moi, en qualité de technicien de formation, la technologie a atteint une certaine vitesse que nous n'avons pas peut-être la conscience ou les données correctes. Les techniciens ou les universitaires ont quand même quelques données qui sont allées jusqu'à ce niveau-là. Je ne peux que féliciter ce forum. Mais alors, s'il y a des recommandations à faire ou des préoccupations de ma part, c'est que nous devons chercher à simplifier la chose. Simplifier la chose, ça veut dire quoi? Nous devons regarder vers l'avant. Et l'avant de chez nous, ce sont nos enfants. Aujourd'hui, on parle de la gratuité à l'école primaire. Cette gratuité doit aller plus loin. L'équipement est le socle du développement. Donc, si nous avons déjà des infrastructures, il faut parler de l'équipement. Quand on parle de l'équipement, on voit directement les moyens financiers. S'il faut vraiment démocratiser le numérique chez nous, je crois qu'il faut faire de grandes ouvertures dans le monde de l'entrepreneuriat. Et le monde de l'entrepreneuriat doit aller plus loin, dans nos écoles. Parce que, à l'époque, je trouvais, et moi personnellement, j'ai bénéficié de Chani Metal, un stage en quatrième des humanités. Le billet, le séjour, tout ici à Kinshasa, a été payé par la Chani Metal. Alors, aujourd'hui, nous avons des écoles abandonnées. L'État est devenu le parent pauvre, qui ne sait pas supporter les écoles.
Donc, nous avons oui, Arsène, quels sont les préalables pour qu'il y ait finalement la promotion du numérique et l'accès même de cet outil à RDC pour tout le monde?
Le préalable...
Le premier, c'est lequel pour vous?
Restructurer les écoles et les mettre au niveau du standard international.
Et deuxièmement?
Deuxièmement, essayer d'initier, s'il faut utiliser le mot initier, la population elle-même. Bon, le professeur venait d'utiliser un
vocabulaire.
Électronisme. Électronisme.
Électronisme de la population. Voilà. Donc là aussi, c'est un socle qu'il faut vraiment aller pousser un peu plus loin pour qu'on puisse gagner le temps. Nous n'allons gagner que sur le temps. Voilà un peu mal.
Merci beaucoup, Arsène. Alors, Bondiche, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue. Et la parole aux auditeurs, Bondiche. Vous avez la parole.
Bonjour et merci pour la parole.
Quels sont pour vous les préalables pour la promotion et l'accès au numérique à RDC, Bondiche?
Merci beaucoup. Je commence d'abord par féliciter le chef de l'État d'avoir pris cette initiative. Alors, dans un premier temps, ce qu'il a décidé, c'est une très 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 bonne chose. Mais il ne doit pas se contenter de rester dans le domaine de la consommation. C'est-à-dire...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne des Bondiches. Il est temps de retrouver Étienne qui est à Guémena. Étienne, vous êtes avec nous. Bonjour Étienne.
Bonjour à Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Alors vous venez de suivre Arsène qui évoquait tout à l'heure, il faut restructurer les écoles, les adapter par rapport à ces plans numériques, les plans nationaux numériques, et aussi essayer d'initier des projets pouvant réellement améliorer la qualité d'accès au numérique à RDC. Alors qu'en pensez-vous Étienne?
Oui, c'est vraiment comme mon frère Arsène venait de le dire. Vous savez que aujourd'hui dans notre pays, Et l'accès à l'internet, c'est un
luxe.
Luxe. Mmh. Et je pense que les forums, c'est bon, les recommandations faites, c'est bon, mais je pense que, comme a dit mon frère là, initier la population pour avoir accès au numérique, ce serait vraiment un atout. Commencer par là, ça va nous aider. Mais la petite question à l'invité est celle de savoir que c'est comme il y a eu contradiction après ce forum. Parce que je crois un expert aurait dit que toute la communication de notre pays transite par un pays voisin. Et à croire l'invité, c'est comme cette déclaration. Non seulement l'invité maintenant, mais un monsieur là, le directeur général de
la SCPT.
De la SCPT.
Oui, qui venait de dire que ce n'est pas vrai. Il avait nié cette affirmation. Et en écoutant l'invité, c'est comme il y a quelques affirmations qui se coïncident. Alors je voudrais qu'on nous mette une population claire là-dessus. Comment est la fonctionnalité comment sera la fonctionnalité de numérique et donc quels sont les avantages?
Voilà. Donc si je comprends bien votre souci, si je comprends bien votre souci, c'est pratiquement impossible d'aller vite au numérique parce qu'il y a encore d'autres problèmes qui entourent au fait cet élan ou qui constituent quand même une pesanteur, notamment la question des simbox qui est gérée à l'extérieur, la question de souveraineté des points CD, comme l'a dit notre invité qui sera dans le souci toujours de vouloir le rapatrier, et aussi tant d'autres problèmes. Avant d'aller au numérique, il faut que les plans puissent prévoir d'abord la résolution définitive de cette problématique. C'est cela la question. Voilà, Étienne est parti. Je crois c'est le même souci. Hein, avant que j'ouvre les standards, j'ai parlé de comment maintenant les plans national du numérique devra faire face à la cybercriminalité. Et deuxièmement, est-ce que parmi les préalables, faudrait-il d'abord résoudre ces problèmes des simbox et des points CD et tant d'autres pour au fait faciliter la révolution numérique à RDC, Maître Kodjo?
En fait, on est dans le domaine, sans le compliquer, quelqu'un a demandé de faire simple, on est dans le domaine des frontières invisibles. Et même dans les télécommunications, on a le dernier kilomètre qu'on appelle le last mile. Ça veut dire que c'est notre téléphone que nous voyons. Mais ce téléphone, il est connecté à quelle antenne, il est connecté à quel câble, vous ne le voyez pas. C'est ce qu'on appelle le kilomètre invisible et c'est ce qu'on appelle la frontière invisible. Maintenant, derrière, c'est les techniciens qui connaissent l'architecture du réseau. Pour sortir de la RDC, soit vous sortez vos appels ou vos transactions par satellite, soit vous le sortez par fibre optique. Et maintenant, l'architecture d'Internet est faite de sorte qu'il y ait des serveurs les plus proches pour remonter la chaîne des serveurs jusque soit à la ressource que vous avez cliqué pour l'avoir, soit au correspondant que vous voulez atteindre. Et donc, il est vraiment impossible que toutes les communications comme je peux l'appeler expert entre guillemets, toutes les communications Internet de la RDC passent par un seul serveur qui serait dans un pays voisin. Ça veut dire que toutes les voies de sortie cheminent vers ce pays voisin, ce qui est impossible.
Donc la communication est contrôlée, serait contrôlée.
Oui, ce qui est impossible parce que nous avons des gateways physiques. Des gateways, ça signifie des passerelles de sortie à l'international qui sont ici à Mwanda. Et nous avons un point d'échange, Kinix, qui fait que tous les opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet sont
branchés. Mais la grande question, ces gateways sont contrôlés par qui?
Oui, le gateway qui est à Mwanda, qui nous connecte au seul câble à fibre optique internationale, il est sous le contrôle de la SCPT. Ça, on le dit. Maintenant, nous avons également Kinix. Kinix, et bientôt on aura Lubich. Ce sont des points d'échange. Ça veut dire que ce sont des centres opérationnels où tous les opérateurs, tous les fournisseurs d'accès à Internet viennent se connecter. Et ce Kinix-là est sous le contrôle d'une association qui s'appelle ISPA DRC.
Donc je peux dire que les débats qu'il y a eu entre la SCPT à l'époque et d'autres téléphonies cellulaires, les télécoms, dans ces pays, ces débats est clos. Parce que les autres réclamaient aussi les contrôles.
Oui, il y a eu dans le passé...
De ces guettes.
Oui, il y a eu dans le passé la volonté des opérateurs privés de pouvoir construire des points d'atterrage ou des points d'atterrissement au niveau du front de mer de Moins.
Et ce débat est clos aujourd'hui?
Il n'y a pas de points d'atterrage et tous les opérateurs, soit-ils, je ne vais pas les citer, sont connectés aujourd'hui au niveau des infrastructures de la SCPT. Et ces opérateurs se sont arrangés, au lieu de toujours aller chercher de ressources au niveau international, de faire un point d'échange de données. Ça veut dire que lorsque vous faites de l'internet mobile avec une société Vodacom par exemple, c'est cette société qui vous donne l'adresse IP, qui vous permet de faire vos transactions à l'instant. Et si vous voulez faire un appel WhatsApp avec quelqu'un qui est seulement sur RTL, ces communications ne vont pas forcément à l'international parce qu'il y a un point d'échange de données qui est basé ici à Kinshasa et géré par des ingénieurs congolais. La situation à l'est du pays est de sorte que certains cybercafés, certains providers du Wi-Fi, au lieu de chercher de la ressource, et ce sont des opérateurs économiques, de la ressource en RDC, ces gens vont chercher de la ressource dans le pays voisin pour améliorer forcément leur qualité ou parce qu'ils sont plus proches de ces serveurs-là. Mais on ne peut pas réduire toute la dimension des communications et des milliards de transactions qu'il y a par jour en RDC à une destination qui est ce pays-là. Quelle capacité de traitement ce pays-là aura-t-il pour gérer 35 millions d'abonnés congolais et plus de 16 milliards de transactions
à l'époque des Télécel, c'était possible. Il y avait combien? Il y avait pratiquement une population très très dense, Maître Kodjo, parce que Télécel était seul à l'époque et les serveurs n'étaient pas à RDC.
Télécel, on parlait de quel type de technologie? On parlait de la technologie
analogique.
Analogique, c'était du AMS. Maintenant, vous êtes dans le numérique. Mmh. Avec WhatsApp, le cryptage est fait de point à point. Et vous avez certaines transactions qui sont faites par blockchain. Quel est ce pays qui a la possibilité de pouvoir décrypter tous les appels? Parce que quand je parle avec WhatsApp, mon appel est crypté de bout en bout. Il faut être la NSA ou je sais pas moi, être le crack d'Israël pour pouvoir réussir cela. Et puis, l'écoute des masses, vous savez ce que ça représente en termes de logiciels, en termes d'intelligence artificielle et en termes de personnel, comme ça peut se passer en Chine, qui se mettent derrière pour pouvoir suivre des millions ou des milliards d'appels et de transactions pour des raisons de censure. Donc, je pense qu'il faut revenir sur Terre et répondre aux questions qui nous sont posées en disant que nous avons fait un schéma.
C'est le plan pour la révolution du numérique à RDC.
Absolument. Et même au-delà, pour la transformation numérique de la RDC. D'abord avec les infrastructures, c'est le premier pilier. Après, c'est le contenu, c'est le deuxième pilier. Comme le disait l'ingénieur Arsène, il faut que nos ouvrages scolaires soient accessibles, comme en France, sur des iPads pour les jeunes enfants. Mmh. Vous investissez dans un iPad pour les enfants, vous n'êtes pas obligé chaque fois de racheter les livres parce qu'on peut télécharger Mon ami Paul à grands pas ou tout le reste chaque année. Et puis l'autre pilier, c'est les usages applicatifs. Notre administration aujourd'hui, vous avez parlé de la question du visa électronique, la question de l'état civil, la question de l'identification biométrique de la population.
La qualité d'image des télés, qui sont même dans des bouquets, mais quand vous regardez, vous sentez la différence avec les télévisions d'autres cieux.
Absolument, parce que les usages applicatifs importés ne cadrent pas forcément avec la climatologie que nous avons. Vous savez que l'insolation peut perturber les fréquences. Le professeur Talé, que je salue, disait également même le bruit de la ville peut perturber la qualité de communication. Et puis aujourd'hui, nous construisons en hauteur. Il y a des cellules qui doivent dialoguer entre elles. Ça veut dire des cellules de prise en charge de communication. Vous avez aujourd'hui des antennes qui ont un obstacle naturel parce qu'il y a un immeuble qui n'existait pas il y a 2 ans, qui a poussé comme un champignon. Et il faut déplacer tout le travail de radio planning pour assurer la qualité. Et puis vous avez la pluviométrie. Vous savez, on va le dire, même le diamètre d'une sphère de pluie peut entacher la qualité de communication.
Donc, oui, parce que c'est ça que nous remarquons quand ceux qui sont abonnés à un bouquet, et quand il y a menace de pluie, finalement tout est coupé et c'est difficile d'accéder. Bon,
c'est pour cela que partout ailleurs on va vers la TNT. En Europe, vous avez le problème de vent. Les vents, quand ils sont violents, la qualité de communication devient exécrable. C'est comme ça qu'on a fait passer la télévision, on a fait passer l'Internet à travers les câbles qui ne demandent pas des fréquences pour pouvoir être stabilisés en termes de qualité. Et le dernier pilier sur lequel nous avons travaillé, c'est la gouvernance et la régulation. Et là-dedans, il y a la question de la cybercriminalité à traiter.
Voilà, la question de la cybercriminalité, on va y revenir. Il est temps d'écouter ingénieur Mangoyo qui nous a rejoint. Et tout en rappelant également à ceux qui veulent la peine d'arriver et de participer à cette émission, ils peuvent composer les 081-890-6330 ou encore les 081-890-49. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous. Voilà, il est temps qu'on arrange la ligne d'ingénieur Mangoyo, qui est l'ancien de la SCPT. On prend Kadima qui est à Kalemie. Kadima, bonjour.
Bonjour, invité, et à tous nos téléspectateurs.
Vous avez la parole, Kadima.
Merci. J'ai salué l'intervention du professeur.
Merci.
Quand vous avez bien entendu, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a maîtrisé la notion. Lorsqu'il a maîtrisé la notion, toutes ces idées qui viennent de présenter vis-à-vis du public ou des milliers de téléradiocratie, nous avons voulu, il était déjà un ministère représentatif, est-ce que ce projet ne sera pas comme un projet celui de la fibre qui a coûté autant de milliards de dollars, ici c'est des millions de dollars aux Congolais, mais les Congolais jusqu'à présent ne bénéficient pas aucune chose. Est-ce qu'il y a la préoccupation que je dois demander au professeur? Vous avez la maîtrise du droit numérique. Est-ce que la volonté politique est là pour vous accompagner? Nous connaissons que l'actuel président de la République a beaucoup de projets qu'il a vu en Europe, là qu'il était. Est-ce que réellement, ceux là qui l'entourent aussi ont la même volonté que le chef de l'État? S'ils ont la même volonté, quel est le mode d'exécution de ces travaux? Mais là, quels sont aussi les modes d'orientation par rapport à ce que les Congolais pourront bénéficier? J'encourage cette initiative. Mais nous ne pouvons pas rester derrière les autres pays. Mais nous devons aussi avancer comme les autres. Mm-hmm. Mais ma crainte est celle-ci. Est-ce que réellement, M. Gilles Longuembo, les Congolais doivent bénéficier? Est-ce que ça ne sera pas les autres qui doivent mettre l'argent de ce projet dans leurs poches? Alors, si c'est possible, j'ai veillé à organiser un sujet avec des nouveaux...
Donc si je comprends bien, Kadima, pour vous, quel sera l'impact de l'adoption de ces plans national numériques sur le vécu quotidien? Il faut qu'on sente quand même que cela a eu un impact, au lieu que ce soit un projet qui va plutôt enrichir simplement des hommes politiques.
C'est ça. Imaginez, nous avons le projet Bukangalonzo. Est-ce que vous avez acheté combien de papiers? Nous avons les fibres optiques, nous avons l'ultime chantier, nous avons la révolution de la modernité. Ce sont des grands termes, ce sont des discours très succulents, mais les Congolais ne voient pas ça dans leur famille de marché de ménager. C'est pourquoi je vais proposer au chef de l'État, lorsqu'on donne à un ministère une tâche, on lui signe un contrat de performance et de résultats. Monsieur le ministre, vous proposez, si était dans 2 ans ou dans 1 année, j'aime que le peuple congolais ait ça, ait ça. Et même à la défense, vous, monsieur le général, monsieur le corps armé, je vous donne, vous avez un contrat, une obligation de résultat pendant 6 mois, si vous n'êtes pas mesure, n'acceptez pas cette fonction. Ou bien n'acceptez pas ce projet, ou pour diriger ce projet.
Voilà. Donc, je comprends bien votre souci, Kadima. Quelles sont les grandes orientations de ces plans nationaux au profit de la population, Maître Kodjo? C'est une préoccupation quand même directe. Je vous laisse répondre.
Oui. Nous avons été requis comme experts et avec d'autres professeurs d'université. Et pendant plus ou moins 4 mois, nous avons mis à la disposition de l'autorité publique notre expertise, sans demander quoi que ce soit en retour. Ça, c'est déjà la part que des grands ingénieurs congolais venus d'Afrique du Sud, venus de France, sont venus d'abord pour dire on conçoit comment la souveraineté numérique de notre pays. Et quand nous avions été reçus par le directeur de cabinet du chef de l'État en tant qu'expert, M. Caméré, il nous a dit il faut que vous fassiez un chronogramme précis. N'allez pas simplement dans votre grande
théorie,
voilà, dans une thèse, mais faites un chronogramme. Ce chronogramme, nous l'avons fait avec des matrices d'action prioritaire. Nous avons dit voici les projets, voici les délais d'exécution et voici les moyens possibles à pouvoir lever, notamment dans le BOT, Build, Operate and Transfer. Ça veut dire un privé peut venir construire, il opère et puis il laisse ça à l'État. Et ce devoir nous avait été confié par un politique. Ensuite, il y a eu le président de la République qui est venu inaugurer en personne l'atelier national sur le numérique. Et il nous a donné ses annonces. Ça veut dire, lui-même, il engage sa responsabilité politique en disant, voilà, d'ici la fin de telle année, nous aurons des visas électroniques d'entrée en RDC, nous aurons l'identification biométrique de la population, et puis dans les différentes provinces, dans la prochaine conférence des gouverneurs, je vais donner des instructions pour qu'on crée des structures ou des portefeuilles s'occupant du numérique. Alors, à partir de ce moment-là, on dit, c'est un nouvel élan. Nous croyons à ce que l'endossement du document va arriver au gouvernement. Quand vous regardez le programme du gouvernement approuvé le 6 septembre au Parlement, le pilier 9, ce pilier 9 parle de du développement des TIC, de la construction des backbones. Et ce plan national du numérique entre effectivement dans la ligne de compte des objectifs gouvernementaux. Après, nous restons experts, par pas politique, quoique j'ai mes orientations, mais on a vraiment tracé tout le cheminement possible pour aider le pays cette fois-ci.
À prendre de l'élan.
Nous avons proposé la création de l'Agence de développement du numérique. En fait, qu'est-ce qui se passe très rapidement? Vous avez l'autorité des régulations des postes et des télécoms qui gère les contenants. Ça veut dire tout ce qui est fréquence et tout ça. Vous avez le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui règle le contenu audiovisuel et la presse écrite. Mais vous avez tout ce qui se passe sur Internet, les réseaux sociaux, qui régulent ça. Vous avez tout ce qui est monnaie électronique, qui régule, bon, bien sûr, la Banque centrale. Vous avez tout ce qui est importation des matériels informatiques. On a quand même besoin pendant 6 mois de disposer...
C'est à ce niveau qu'il sera imposé une taxe d'accise, la taxe sur l'Internet.
Bon, la taxe...
Est-ce que ça sera... C'est ça la question maintenant.
Non, c'est que le législateur a prévu. Il y a un projet de loi. Là, je parle de l'Agence de développement numérique et je vous réponds également. Ce qu'il y a, c'est que le législateur, en 2018, avait voté déjà au Sénat et à l'Assemblée nationale une loi disant qu'on devrait avoir un fonds de service universel. Ça veut dire, au lieu de chercher de l'argent à gauche et à droite, on finance l'accès de tout le monde, on finance la subvention des appareils téléphoniques. On finance également la formation contre l'électronisme avec 3% du chiffre d'affaires prélevé dans l'ensemble des taxes du marché. Et donc, il y a une agence de promotion de fonds de services universels qui doit être créée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons mis l'Internet comme étant un produit de luxe. Donc, quand on parle des accises, les accises, c'est une taxe qui concerne les choses comme l'alcool, comme le tabac, ou comme d'autres produits des luxes. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Internet est considéré par la RDC, non pas comme un
produit... Ce qui justifie cette taxe-là,
oui,
qui sera imposée à la population.
Ça veut dire, la logique justifie cette taxe, mais il faut que la RDC essaye de migrer. Voulons-nous avoir de l'argent en considérant l'Internet comme un produit de luxe, alors qu'il est devenu un produit de masse? On parle de 16 millions de Congolais qui utilisent l'Internet mobile, sans compter d'autres connexions en Wi-Fi. Est-ce encore un produit de luxe? Veut-on faire de la fiscalité un simple moyen de captage de rente, ou veut-on faire de la fiscalité un levier de développement? Je donne un exemple précis. Vous avez 35 millions d'abonnés des téléphones, mais vous avez 16 millions d'entre eux seulement qui utilisent l'Internet mobile. Ça veut dire qu'il y a 9 millions de personnes au Congo qui n'ont pas les moyens de s'acheter un smartphone. Or, ce smartphone, déjà à partir de $35, vous pouvez l'avoir. Qu'est-ce qui arriverait si pendant 6 mois, comme on l'a fait au Rwanda, parce qu'on aime souvent citer le Rwanda, comme on l'a fait au Sénégal, qu'est-ce qui arriverait si pendant 6 mois, on dit, on défiscalise l'importation des téléphones? Ce qui va se passer, c'est qu'on aura 9 millions de personnes qui vont accéder et la TVA ce qu'on perd en entrée, la TVA à la consommation va pouvoir le rattraper. Pour le moment, nous avons une niche de 9 millions de personnes qui sont incapables de consommer l'Internet.
Il faut d'abord commencer par récupérer les 9 millions.
Oui, il faut récupérer. C'est cette logique qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir une logique fiscale pour être des rentiers de la République. Désolé, ça pourrait énerver les gens, mais il faut voir l'impact de la fiscalité sur l'économie numérique. Et cette question avait été abordée avec vraiment beaucoup de brio par un gars de la FEC qui s'appelle Monsieur Barthène Sabali. On peut s'asseoir et faire des simulations pour dire ce que nous perdons sur les accises ou sur les douanes, combien est-ce qu'on va les gagner sur la TVA et la consommation.
Voilà, on va continuer sur les lignes et les orientations données par les participants à ces forums. Chrysostome était l'un des participants à ces forums. Chrysostome est à Paris. Lui, il a été également il a participé dans ces forums. Alors, Chrysostome, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, cher ami. Bonjour.
Alors, Chrysostome Nkumbi Samba, vous êtes expert également en cybercriminalité et numérique. Vous avez participé à ces forums. Et depuis Paris, vous intervenez. Et qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces forums? Est-ce que nous pouvons dire qu'il y aura réellement un impact sur les numériques à RDC? Partant, en regardant le plan qui a été élaboré, vous avez fait partie des participants qui ont mené également les discussions.
Mais bien sûr, en fait, il peut y avoir un impact, mais toujours est-il qu'il faut savoir de quoi qu'on parle. Okay? Donc, il y a la technique et il y a l'usage de la technique. Bon, pour qu'il y ait véritablement un impact, ben, il faut plus s'attarder sur l'usage qui va être fait de la technique. Vous voyez? Donc, la technique, elle est ce qu'elle est, mais c'est l'usage. C'est-à-dire, comment est-ce que le numérique va être utilisé pour apporter le développement tant souhaité? Sachant que derrière, comme vous avez dit, il y a cette histoire de cybercriminalité. Mais lorsqu'on parle de cybercriminalité, il faut toujours différencier la cybercriminalité de la cybersécurité. Dans ce sens où la cybersécurité, c'est toutes les mesures qui vont être prises en amont pour éviter les dérives de l'utilisation du numérique. C'est complètement différent en fait de la cybercriminalité où ce sont les actes qui sont commis à partir des outils qui sont mis en place. Et c'est pour ça que moi, l'unique critique que je mets par rapport au plan tel qu'il a été adossé, c'est que la gouvernance, en fait, est mise en quatrième position alors que devait être la priorité. Après, ça dépend de quelle gouvernance qu'on parle. Parce qu'il y a la gouvernance du plan en tant que tel, ok? Et puis après, il y a la gouvernance, en fait, liée au numérique dans la globalité. Et c'est dans ce sens que j'ai dit, le pilier 4 aurait dû être, en fait, le pilier 1. C'est pas pour faire la sécurité dans un premier temps, mais c'est déjà pour appliquer les principes de la sécurité. Parce
oui.
Que la sécurité, c'est quoi? Lorsqu'un accident arrive, ben, il est trop tard.
Mais alors, il y a quand même quelques sceptiques. Hein. Est-ce que ce n'est pas là les Congolais de la diaspora une occasion pour eux de pouvoir imposer un système qui éprouverait pas mal de difficultés en RDC par rapport à nos réalités?
Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le numérique, ce n'est plus une option. Ok, tout le monde y va et de toute façon, si on n'y va pas, on va être écrasé. Lorsqu'on parle de la diaspora, la petite différence au niveau de la diaspora, c'est peut-être des gens qui ont étudié, qui vivent pas dans le même contexte que ceux qui sont en RDC, mais par contre, au niveau connaissance, ils sont un peu plus avancés. Et quoi que l'on dise, la diaspora, elle est aussi patriotique que les nationaux. Donc, dans ces conditions-là, non. C'est parce que le numérique, ce n'est plus une option. Il faut laisser la place aux sachants, c'est-à-dire ceux qui ont étudié, qui comprennent, qui sachent, et puis qui sachent expliquer pour le développement.
Alors, Chrysostome Nkumbi, aujourd'hui, c'est vrai, on a l'impression que l'Internet, les réseaux sociaux, c'est pratiquement des médias qu'on ne peut pas facilement contrôler. Mais quand le plan national de numérique, sur le numérique, lève l'option de pouvoir créer une agence de régulation, vous ne pensez pas que c'est vraiment paradoxal?
Non, c'est pas paradoxal. C'est ce que quand vous allez dans toutes les maisons, couteaux, ils sont mis dans la cuisine, hein. Donc ils sont pas mis dans la chambre. Ça veut dire que pour Internet, les réseaux sociaux, c'est pareil. Dans la mesure où ce n'est pas contrôlé, ce n'est pas régulé, eh ben, on laisse la place un peu au désordre. Donc à ce moment-là, il y a du travail à faire. Et c'est ce que je dis. Et c'est pour ça que j'insiste pour que la notion de gouvernance, le pilier gouvernance, soit pris en premier, parce que le pilier, en fait, c'est ceux-là où on va définir, mettre en place le cadre juridique nécessaire pour encadrer l'utilisation de l'Internet.
Voilà, Chrysostome, nous vous gardons en ligne, ne coupez pas. On va revenir également à vous. Le temps d'écouter ingénieur Mangoyo qui est à Kinshasa. Ingénieur Mangoyo, bonjour. Ingénieur Mangoyo, vous êtes avec nous? Voilà, je crois qu'on a des petits soucis avec la ligne des Mangoyo. Baraka, vous êtes à Bounia. Bonjour, Baraka.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution?
Après, suivant les interventions de l'invité, c'est un sujet très pertinent parce que ça fait la ligne au monde actuel ici. Le monde informatique, tellement que ça prend d'aller dans l'air plus accéléré. Dans notre milieu ici, surtout nous qui sommes à l'Est, j'ai beaucoup de soucis. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a commencé à parler de fibre optique et beaucoup d'autres choses, il y a un terme employé par les invités là-bas, l'électronisme. Vraiment, c'est un terme qui entre à sa place. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'on appelle d'abord l'importance des fibres optiques. Mais maintenant, aujourd'hui, avec le discours, c'est un projet très ambitieux du président de la République, que nous savons d'ailleurs, qui demande à tout le monde d'avoir un peu une notion sur l'informatique. Pourquoi pas la technologie de l'information et de communication. Il se pose un problème de connaissances. On n'a pas cette culture-là. Pourquoi? Parce qu'on est formé. Aujourd'hui, on peut le proposer, bien sûr, pour tous les pays, mais vous avez trouvé moins de bénéficiaires. En tout cas, on va en profiter. Pourquoi? Parce que c'est plus ici à l'Est. On est basé plus sur...
Oui, c'est pourquoi Arsène a proposé de restructurer, de repenser au niveau de nos écoles, nos enfants, parce que s'il faut sensibiliser la population, tout peut passer facilement au niveau de l'école, et là, ça permettrait à tout le monde de se faire quand même une idée. Merci beaucoup, Baraka. On revient à vous, Maître Kodjo, si vous pouvez réagir par rapport à ce que venait de dire tout à l'heure Chrysostome et aussi les autres auditeurs qui vous ont précédé.
Chrysostome, que je salue, c'est le voisin du voisin du voisin, c'est un citoyen du monde, et c'est la même école, hein, l'école française. Et tout ce qu'il a dit est vrai. En fait, la cybercriminalité...
Le numérique n'est plus une option.
Non, le numérique n'est plus une option. Où vous y êtes, où vous êtes embarqué. C'est comme ça. Et donc, la souveraineté numérique consiste à avoir son paradigme, son modèle, pour agir local, tout en pensant global. Et sur la question de la cybercriminalité, oui, la cybersécurité, c'est à la fois la prévention. Ça veut dire, lorsque nous mettons en place des infrastructures, nous faisons en sorte que ces infrastructures aient une sécurité physique. Pas comme le rapport d'ailleurs parlementaire l'avait révélé, où les gens ont facile à pouvoir déterrer la fibre optique et à attacher leurs chèvres au Bandundu ou au Bas-Congo. Donc c'est déjà eu un
aspect... Parce qu'il s'agit d'un travail inachevé, personne n'a pu expliquer, et puis bon, voilà. Et si on avait fini ça avant, bon, voilà. Personne n'a achevé de manière incivique.
Oui, la cybercriminalité commence déjà dans cela. Ça veut dire la prévention, aussi bien sur le plan physique que sur le plan logique, en mettant probablement des antivirus, des pare-feux, même s'il n'y a pas d'attaque. Ensuite, il y a la résilience. Le pays ne dispose pas de CERT, ça veut dire de Computer Emergency and Response Team. Ça veut dire lorsque Anonymous, en 2018, a attaqué les sites de la CENI, les sites de la Banque Centrale du Congo et de la Présidence de la République, quelle a été la réponse congolaise? Parce que ces sites sont hébergés à l'étranger. C'est un fait. Et nous devons travailler sur la résilience. Comment est-ce que nous mettons en état de fonctionnement, même si nous sommes attaqués par des attaques cybernétiques? Et ensuite, il y a la répression. C'est là que je rejoins le voisin du voisin, monsieur Chrysostome, que je connais, pour dire que le cadre légal, aujourd'hui, n'a pas mis en place des dispositifs. Prenez le cas du Bas-Congo. La personne qui a été filmée est une victime. En Europe, on parle de la revanche pornographique, ou aux États-Unis de porn revenge. Toute personne que vous filmez en tenue d'Adam pour diffuser sur Internet est victime. Et vous qui diffusez, vous devez écoper de 2 ans de prison et 65 000 euros d'amende dans la dernière loi pour la République de la République numérique en France. Donc, ici, en RDC, cette infraction n'existe pas. C'est pour cela que les gens s'amusent à le faire. Même quand vous dites on appréhende telle personne qui a...
C'est une vie privée. La Constitution garantit cette vie privée des quelqu'un.
Mais la Constitution, je crois, c'est l'article 31 par la voix des ondes, et je vérifierai après l'émission, garantit cela. Mais sur le plan pénal, la personne qui a filmé OK, vous l'appréhendez pour quelle infraction? Vous allez dire atteinte à quoi? À la vie privée? Le fait d'enregistrer les communications. Vous m'appelez monsieur Jörg Lingembo et moi j'enregistre sur mon portable et puis à votre insu, je balance. C'est déjà une infraction d'atteinte à la vie privée que nous n'avons pas ici en RDC. Maintenant, pour le rassurer.
Donc, le plan national du numérique recommande qu'on puisse revoir aussi les cadres légaux.
Absolument. Nous le recommandons. Vous avez avec vous, monsieur Koumbi ou moi qui avons.
Ça éviterait ces sextapes que nous enregistrons à longueur de journée.
Maintenant, je donne l'architecture sécuritaire en France ou en Europe concernant. Comment est-ce qu'on contrôle et on remonte jusqu'à la personne? Il y a un décret en France qui oblige les opérateurs à pouvoir conserver toutes les transactions de navigation, de connexion et de géolocalisation pour des fins d'enquête au besoin. Maintenant, l'architecture est faite de sorte que vous avez les opérateurs de transmission, donc les GSM que nous avons, par exemple. Vous avez les fournisseurs d'accès à Internet et puis vous avez les hébergeurs et vous avez les éditeurs. Les éditeurs, soit ce sont les professionnels qui sont les journalistes, soit alors ce sont les particuliers. Et chaque personne qui met sur Internet quelque chose est rattrapable, soit dans le site qui héberge, soit chez le fournisseur d'accès Internet qui donne la connexion à l'hébergeur, soit auprès de l'opérateur GSM qui vous permet de pouvoir appeler pour entrer sur Internet. C'est ça l'architecture préventive qui existe. Nous ne l'avons pas. Maintenant, le modèle le plus abouti et le plus, on dit liberticide, c'est le modèle chinois, qui même entre en temps réel.
On va conclure avec vous, le temps de donner aussi pour conclusion.
Cinq secondes. Oui. Qui entre en temps réel dans les communications et qui savent que cette communication est subversive et on la bloque avant qu'elle arrive à son destinataire. Nous, en RDC, nous n'avons pas encore ce paradigme ici et c'est ce que le plan national du numérique propose grâce au conseiller spécial en charge du numérique.
Miguicha, que nous saluons d'ailleurs, qui a été également plusieurs fois notre invité. Chrysostome, on va juste une phrase avant de terminer. Quelle est l'impression que vous avez eue après votre participation à ces forums?
Mais l'impression que j'ai, de toute façon, c'est peut-être j'entends bien tout ce que vient de dire mon ami, je suis parfaitement en accord avec ce qu'il dit, mais là, on reste sur le plan technique, ok? Mais sur le plan stratégique, en fait, sachant que lorsqu'on parle de cybercriminalité, la cybercriminalité, elle passe au travers des logiciels qui sont installés sur des machines. Donc, c'est-à-dire, en fait, là, on peut très bien vous attaquer à partir de la machine, en la contrôlant, et on peut aussi vous attaquer à partir des logiciels qui sont embarqués dans les machines, sur lesquels logiciels qui peuvent être déclenchés à tout moment parce qu'on n'a plus le contrôle. Donc, c'est pour ça que je disais, par rapport à la souveraineté nationale, je pense que, il faut faire extrêmement attention. Et il a bien dit, il y a le modèle français, bien sûr, mais en fait, mais dans le modèle français, et c'est pour lequel aussi les Français se battent, il y a l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information de l'État, l'ANSI.
Merci.
Et l'ANSI, en fait, est un organe qui est habilité à donner les certifications des appareils qui sont installés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je ne peux pas installer n'importe quoi dans le système, je ne peux pas installer, quand je dis n'importe quoi, autant que ce soit le logiciel, que ce soit le matériel.
Donc, merci beaucoup. On aurait bien voulu aller plus loin avec vous, hein, Chrysostome. Le temps nous est parti fait défaut. On y reviendra très prochainement pour suivre de près les dispositions de ces plans nationaux et avec Kodjo et avec vous, vous tous qui êtes sortis derrière de l'école française des numériques. Merci beaucoup. Alors, Maître Kodjo, juste une phrase à la fin.
Une phrase, il y a de l'espoir.
C'est la fin qui justifie les moyens, hein, parce que si le forum a été tenu, maintenant on attend les résultats.
Il y a de l'espoir parce qu'on a su de quoi nous parlions. Il y a de l'espoir parce qu'on a un plan qui peut être opérationnalisé, chronogrammé, je peux dire ainsi, et finançable. Voilà, c'est de l'espoir pour le pays.
C'est l'espoir pour le pays. Maître Kodjo Ndoukouma, vous êtes docteur, comme je l'ai dit en début, docteur en droit de l'économie numérique de la Sorbonne et aussi l'un des rédacteurs de ce plan national de numérique qui a été adopté par le forum sur le numérique. Voilà, on se retrouve avec vous, hein, très prochaine, Maître Kodjo. Vous êtes un habitué de la maison. Vous venez quand vous voulez. Voilà, merci également à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.